France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous. La 9e de Beethoven, une histoire politique. C'est le thème de nos trésors aujourd'hui et demain, et le titre du livre qu'Esteban Bourg avait fait paraître en 1999 chez Gallimard. Directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris et spécialiste des rapports entre musique et politique, Esteban Bourg se penche dans son ouvrage sur la destinée de la 9e symphonie de Beethoven, dont le final, l'Ode à la joie, est depuis 1985 l'hymne officiel de l'Union européenne. Dans la première partie de cet entretien, Esteban Bourg nous parle des premiers hymnes nationaux et de l'origine de la 9e symphonie de Beethoven. Esteban Bourg était l'invité de Martine Kaufmann sur France Musique en 2009 dans l'émission Note contre note.
Note contre note. Martine Kaufmann.
Bonjour à tous et à toutes, et en ce samedi matin, une journée un peu exceptionnelle sur les antennes de France Musique consacrée à Emmanuel Krivine qui s'engage dans une grande aventure, l'intégrale des symphonies de Ludwig van Beethoven avec sa chambre philharmonique. Ce soir, il est à la Cité de la Musique à Paris et il dirige la 9e symphonie. Aussi me suis-je plongée dans ma bibliothèque pour en ressortir un livre toujours d'actualité, même s'il a une dizaine d'années. Et j'ai demandé à Esteban Bourg, puisque c'est lui l'auteur de cet ouvrage, La 9e de Beethoven, une histoire politique, de venir nous en parler. D'autant, Esteban Bourg, que vous avez écrit un article récemment dont nous reparlerons au cours de cette émission. Il va donc être question de politique, de 9e symphonie, d'Europe aussi. Et je rappellerai à nos auditeurs que vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, qu'on vous a connu en France avec un essai sur la suite lyrique de Berg, l'histoire d'un secret. Je me souviens, c'était à lire comme un roman policier, parce que vous avez décrypté le mystère caché dans cette suite lyrique. Et puis, vous avez publié récemment le cas Schoenberg, toujours dans la prestigieuse collection Bibliothèque des Histoires chez Gallimard. Gallimard ne publie pas beaucoup d'ouvrages sur la musique dans cette Bibliothèque des Histoires. Est-ce que vous considérez que votre ouvrage est plus une histoire politique qu'une histoire musicologique de la 9e? Ou quel était votre but, puisque c'est votre thèse, en fait?
Je pense que c'est un livre d'histoire de la musique qui, par définition, est une province de la musicologie. Donc, je ne sais pas si ça règle la question
oui,
des frontières de la musicologie,
mais enfin, ça la règle
c'est de ça
façon.
Qu'il s'agit. Oui.
Et donc, vous vous êtes intéressé à la réception, en fait, de la 9e de Beethoven, à la réception de Beethoven, à l'érection du monument beethovenien, et puis à la place toute particulière qu'occupe dans l'imaginaire occidental la 9e symphonie. Enfin, quand je dis imaginaire occidental, je pourrais aussi parler du Japon, puisqu'il y a des traditions d'exécution de la 9e symphonie jusqu'au Japon.
Oui, bien sûr, jusqu'au Japon, en Argentine par exemple,
oui,
et dans bien d'autres pays. Donc c'est un phénomène qui pose la question de qu'est-ce que le monde au sens de la culture classique. À l'époque de Beethoven et après, tout le monde était convaincu que c'était cette musique-là, celle de Beethoven, avait une vocation universelle, donc à plaire à tous les hommes. Et d'ailleurs, la 9e a toujours fonctionné comme un peu le lieu commun pour dire ça, dans la mesure où il est question, comme on sait, de tous les hommes deviennent frères et ainsi de suite. En même temps, bien sûr, ce n'est pas tous les hommes, ce n'est pas tous les êtres humains, puisque la culture classique, même à son apogée, n'a jamais été complètement hégémonique. Et c'est tant mieux, non? Sinon, ça aurait été l'arrêt de mort pour toutes les autres formes de culture de par le monde. Mais enfin, s'il y a eu un moment sympathique, disons, du projet universaliste européen, peut-être que c'était autour de cette idée qu'une musique pouvait rassembler les hommes, les faire se parler, s'entendre, voire chanter ensemble. Et de ce point de vue, la 9e reste une sorte de fétiche sonore que l'on retrouve depuis 1824 jusqu'à aujourd'hui, un peu partout et à toutes les sauces. Et c'est ce que j'essayais de...
C'est ce qu'on va voir d'ailleurs pour toutes les sauces. Nos auditeurs vont être servis puisqu'on a choisi quelques versions qui sont, d'un certain point de vue, assez savoureuses. D'ailleurs, en plus, labellisées par le Conseil de l'Europe. Donc, c'est d'autant plus savoureux. Vous retracez dans les premiers chapitres de votre ouvrage, donc la 9e de Beethoven, une histoire politique, Esteban Bourg, l'origine de penser une musique comme ayant vocation à rassembler les foules pour qu'elles chantent la fraternité, et vous montrez l'évolution ou le passage peut-être d'un modèle religieux à un modèle sécularisé, à travers notamment le rôle des Anglais et le rôle qu'a pu jouer, et que joue toujours d'ailleurs, Handel dans l'imaginaire britannique.
Oui, en effet, je commence en amont, bien en amont de la 9e, puisque ce prélude se passe effectivement au 18e siècle anglais. Et de ce point de vue, je précise qu'en effet, la plupart de mon bouquin est consacré à ce qu'on appelle la réception, c'est-à-dire ce qui s'est passé à partir de 1824 jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a une bonne première partie qui concerne non seulement les prolégomènes avec le cas anglais, la Marseillaise, on y viendra, je pense, mais aussi, comme on dit, l'œuvre elle-même, la 9e, comme projet politique quelque part, comme une représentation en tout cas d'éléments politique. Et donc, il m'a semblé que c'était intéressant de remonter jusqu'à ce moment anglais, dans la mesure où, on le sait, hein, le 18e siècle anglais est un peu le berceau de la démocratie moderne. Et ça se reflète effectivement dans les pratiques musicales, et on peut le voir de manière très précise autour de, disons, la période qui va de la fin des années 1720 jusqu'au moment de 1745. Pourquoi ? Parce qu'en l'espace de ces 20 années, on voit coexister, puis l'un laisser la place à l'autre, deux modèles de musique au service de la gloire du roi, disons ça comme ça, avec un premier modèle qui est le modèle monumental, celui que représentent certaines œuvres de Handel, pour ne pas les nommer, on y vient. D'une part, donc, grande musique, grand chœur, grand orchestre, et surtout cadre cérémoniel qui exclut la participation du peuple, des gens, modèle traditionnel donc. Et puis un deuxième modèle qui est une idée tout à fait efficace de mettre les gens ensemble pour qu'ils chantent à la gloire du roi. Et là, bien sûr, ça entraîne des conséquences très importantes sur le type de participation que l'on attend des gens. Et l'expérience pilote de cette technique, parce que c'est une technique de propagande, on pourrait dire, une technique de persuasion politique, l'expérience pilote, donc, c'est le God Save the King, maintenant God Save the Queen, comme rituel populaire autour du souverain. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de faire partir l'histoire de ce moment-là.
Alors, on a choisi comme première musique de faire entendre à nos auditeurs une anthème pour le couronnement du souverain, Zadok the Priest de Handel, qui renvoie aussi à la tradition des anthèmes et du chant dans les églises en Angleterre, et puis parce qu'on entend aussi dans cette anthème « Dieu sauve le roi ».
Thank you.
bien, si on ne devient pas tous royalistes avec ça, Esteban Bourg, Zadok the Priest, donc un hymne pour le couronnement du roi George II, dû à la plume de Handel, et tout le peuple se réjouit et dit « Dieu garde le roi, vive le roi, que le roi vive à jamais, amen ». Alléluia, avec la direction de John Eliot Gardiner, Monteverdi Corre, English Baroque Soloist. La question, ça va être de sortir ce type de musique de l'église pour la mettre ailleurs. Et les Anglais ont commencé, puisque la première audition du God Save the King pendant la rébellion jacobite, c'est au théâtre. Donc oui. On voit bien que le théâtre devient le nouveau lieu où se rassemblent les foules.
Oui, en effet. Enfin, c'est le théâtre, mais c'est aussi ce que Habermas appelle la sphère publique ou l'espace public, c'est-à-dire une sorte d'espace virtuel communautaire où on discute, en gros. Et ça passe par la presse, par les cafés, les fameux cafés où on parle politique à l'époque, et les théâtres, donc. Mais il y a déjà, à ce moment-là, un paradoxe qui est un peu inhérent à toutes ces histoires de musique politique, c'est que, d'une part, ces espaces comme le théâtre, comme la presse, etc., sont des espaces de débat. Et en même temps, le chant, c'est un chant à l'unisson qui, par définition, exclut le débat. C'est-à-dire que c'est l'unanimité de l'unisson, vous voyez. Et le paradoxe d'un chant politique qui est au service de la liberté, du débat, de la démocratie, mais en même temps suppose ce moment où tout le monde dit « je suis exactement comme mon voisin » et donc « je renonce à ma subjectivité », c'est au cœur de toute la suite, hein, où on va avoir, du côté de la Révolution française, ce double aspect aussi, c'est des chœurs pour la liberté, mais, disons, parfaitement encadrés par l'État, parfaitement contrôlés, rien ne dépasse.
Mais c'est ce que dit Diderot à la fin de la lettre à Mademoiselle de Chaux, où il s'interroge sur la toute-puissance de la musique, et il parle du côté effusif d'un chant que tout le monde entonne, et ça l'inquiète, en fait. C'est-à-dire, ça l'inquiète, c'est le côté non langagier de la musique, c'est-à-dire cette manière qu'elle a de pouvoir nous rassembler tous dans une grande forme d'unanimité où chacun, effectivement, abandonne sa subjectivité au profit d'une collectivité pour le meilleur et pour le pire.
Eh oui, c'est bien, je pense que ce paradoxe, il est impossible à évacuer, il est toujours là, hein, de toute l'histoire. Enfin, à chaque fois qu'on se retrouve face à cette figure d'une masse qui chante à l'unisson quelque chose, on peut se dire c'est magnifique, tout le monde est d'accord, et on peut se dire c'est terrible, tout le monde est d'accord.
Oui, exactement. Alors les Français, par rapport à ça, évidemment, c'est la Révolution qui amène la question de l'hymne sur le devant de la scène, puisqu'avant on avait notre God Save the Queen qui était le Salve Fac Regem dans les offices religieux, mais avec le processus de sécularisation, de culte des héros de guerre aussi aux frontières, il y a un chant qui va s'imposer qui est la Marseillaise. Donc on passe de la voix du peuple à la voix d'un peuple à travers la Marseillaise.
Oui,
et en plus, c'est la voix des Marseillais au départ.
Oui, l'histoire de la Marseillaise, on sait qu'elle est centrée par rapport à ce qu'est le projet central des hymnes révolutionnaires qui sont ces morceaux un peu oubliés, composés par Gossec, Méhul et d'autres. En fait, Rouget de Lisle, il a eu, disons, l'astuce, le génie, la chance, comme on voudra, de composer un type de musique révolutionnaire qui était tout juste un peu excentré par rapport à ce que voulait l'État, disons. Et ça a bien marché, et de fait, on a oublié tous les autres, et enfin, ou presque, et la Marseillaise reste là, comme en même temps la culmination de ce projet, tout le monde chante en chœur cette voix unanime de la nation. La voix unique de la nation, c'est un peu le projet de la Révolution dans tous les domaines, en tout cas dans son moment jacobin tout particulièrement, en dehors des traditions religieuses, et là le côté rupture est nettement plus important qu'avec le God Save the King, qui est bien sûr quelque chose de nouveau, mais qui en même temps, comme le titre le dit, ça
oui,
parle de Dieu, ça oui. parle du roi.
Puis il y a la continuité de la monarchie ouais. britannique. Goethe parle de Te Deum révolutionnaire quand il entend, puisqu'il est dans les bagages des armées contre-révolutionnaires, et il entend la Marseillaise chantée par des soldats un peu déguenillés de loin, et il parle d'un redoutable Te Deum révolutionnaire. Alors on a choisi ensemble de faire entendre la Marseillaise, mais à travers le filtre germanique, parce que les Allemands étaient très ambivalents par rapport à la Marseillaise et par rapport à la Révolution, évidemment, puisque les armées françaises ont été, pour la rive gauche du Rhin, des armées de libération, d'un certain point de vue, mais en même temps se pose la question du nationalisme. Et il me semble que Schumann, sur un poème de Heine, les deux grenadiers, traite bien de cette question avec ces deux soldats qui reviennent de la campagne de Russie.
Frankreich zogen zwei Grenadier, die waren in Russland gefangen. Und als sie kamen ins deutsche Quartier, sie ließen die Köpfe hangen. Da hörten sie beide die traurige Mär, dass Frankreich verloren gegangen. Besiegt und geschlagen das tapfere Heer und der Kaiser gefangen. Da weinten zusammen die Grenadier, wohl ob der kläglichen Kunde. Der eine sprach, wie weh wird mir, wie brennt meine alte Wunde? Der andere sprach, das Lied ist aus. Auch ich möchte mit dir sterben, doch hab ich Weib und Kind zu Haus, die ohne mich verderben. Was schert mich Weib, was schert mich Kind? Ich trage weit besser Verlangen. Lass sie betteln gehen, wenn sie hungrig sind. Mein Kaiser gefangen. Gewähr mir, Bruder, eine Bitt. Wenn ich jetzt sterben werde, so nimm meine Leiche nach Frankreich mit. Begrab mich in Frankreichs Ehre, das Ehrenkreuz am roten Band sollst du aufs Herz mir legen. Die Flinte gib mir in die Hand und gürt mir um den Degen. So will ich liegen und horchen still wie eine Schildwache im Grabe, bis einst ich höre Kanonengebrüll und wiehende Rosse getrabe. Dann reitet mein Kaiser wohl über mein Grab, viel Schwerter klirren und blitzen, viel Schwerter klirren und blitzen. Dann steig ich gewaffnet hervor aus dem Grab, den Kaiser zu schützen.
Les trésors de France Musique.
Schumann, sur un poème de Heine qui s'installa en France, dit Biden Grenadier, les deux grenadiers, opus 49, numéro 1, Stéphane Gens, baryton, Clark Ter Horst au piano, avec cette citation, Esteban Bourg, de la Marseillaise dont vous parlez dans votre ouvrage consacré à la 9e symphonie de Beethoven, une histoire politique qui nous occupe ce matin. La Marseillaise qui est devenue difficilement notre hymne national, puisque c'est la 3e République seulement qu'il n'instaurera comme hymne national. Et par contre, vous faites remarquer dans toute cette première partie de votre ouvrage, vous cherchez un peu les origines politiques en quelque sorte du succès de l'hymne à la joie de la 9e symphonie de Ludwig van Beethoven. Vous faites remarquer que la première musique, enfin qui est commandée, première musique d'État en quelque sorte, comme hymne national, elle est commandée tout simplement à Joseph Haydn par l'Empire des Habsbourg.
Oui, en effet, si on regarde la séquence d'origine des hymnes nationaux modernes, l'hymne autrichien, qui est maintenant d'ailleurs l'hymne allemand, mais enfin à l'époque c'est de l'Autriche qu'il s'agit, est le premier qui est conçu par les autorités comme un instrument de police. Parce qu'en fait, l'hymne en question, il est commandé par le chef de la police, à Haydn, donc, qui est le plus célèbre compositeur vivant à l'époque, pour des raisons de ce qu'on appelle politique intérieure, c'est-à-dire il y a de l'agitation des factions de l'élite qui sont pas d'accord avec la politique de l'empereur à l'époque, et donc c'est vraiment le genre de bricolage médiatique, comme on dirait aujourd'hui, sauf que les médias en question à l'époque, ça passe encore une fois par des réunions publiques dans des théâtres, des questions de bouche à oreille dans les couloirs de l'élite, etc. Et donc il y a ce chant commandé à Haydn, Gott erhalte Franz den Kaiser, donc, qui date de 1797.
Sur des vers donc, de Lorenz Leopold Aschka, et sur lesquels donc, Haydn va composer sa musique. Alors, chanter là aussi pour la première fois au théâtre, donc le 12 février 1797 au Burgtheater de Vienne, donc le grand théâtre viennois. Et alors, nous allons l'entendre dans une version musicale, pourrait-on dire, puisque c'est un arrangement.
C'est de la musique aussi, hein, faut pas exagérer, mais enfin, c'est vrai que, bon, un quatuor à cordes, ça fait
oui,
plus
ça
musique,
fait plus chic, c'est plus chic qu'un quatuor
un chant
à cordes.
De propagande, oui.
On va voir aussi pour la neuvième, ce qui fait plus ou moins chic dans le choix des interprétations. Alors là, bon, ces variations sont dues à Haydn lui-même. Il paraît, et c'est ce que vous dites dans votre ouvrage, Esteban Bourg, que Haydn lui-même jouait beaucoup ces variations qu'il aimait bien et qu'il les a jouées quelques jours avant sa mort.
Alors là, excusez-moi, oui, non, c'est juste pour dire que c'est difficile de faire la part entre la légende et les faits historiques.
Mais...
parce qu'il y a toute une héroïcisation de Haydn qui le fait devenir lui-même, ça c'est intéressant, le fait devenir lui-même l'auteur de l'idée de l'hymne en question, et du coup on évacue le chef de la police dont je parlais, on met Haydn à sa place comme un patriote spontané et enthousiaste qui veut servir la cause de l'État de l'empereur. Et la transformation de, disons, l'instrument de l'État en production spontanée, subjective d'un artiste, bah on dirait que tout se joue là, dans cette figure de l'artiste comme individu.
Mais que serait
libre.
L'histoire sans la légende, comme dirait John Ford?
Qu'est-ce qu'on pourrait critiquer sinon?
Exactement. Que feraient les historiens, musicologues de l'histoire politique des œuvres s'il n'y avait pas justement matière à controverse, et si on ne dressait pas le portrait des grands compositeurs de façon tout à fait arrangée? Alors un petit extrait du Poco Adagio du Quatuor Opus 76, numéro 3, joué par le Quatuor Tatrai, avec évidemment la citation de l'hymne autrichien. L'hymne ex-autrichien, Esteban Bourg, puisque maintenant c'est l'hymne national allemand, ici dans ses variations du Poco Adagio du Quatuor opus 76, numéro 3, de Joseph Haydn, interprété par le Quatuor Tatrai. Nous approchons de Beethoven, puisque tout ça, en fait, c'est pour nous préparer à la question de l'hymne européen à travers l'Ode à la joie de la 9e symphonie de Beethoven. Et le chemin beethovenien, d'ailleurs, qui mène de cette mélodie de la joie au final de la 9e symphonie, est aussi un long chemin. Et peut-être que la longueur du chemin a fait l'histoire aussi, ou la légende de cette rencontre entre Beethoven et Schiller, et puis d'une mise en musique qui a été assez longue, puisqu'elle a duré plus d'une dizaine d'années.
Oui, en effet, on peut retracer l'idée de faire quelque chose avec l'Ode à la joie de Schiller jusqu'à très tôt dans la carrière de Beethoven, et aussi les mélodies, ou plutôt la mélodie de l'Ode à la joie, ressemble pas mal à d'autres mélodies que l'on retrouve en amont dans sa carrière, et donc il y a comme une sorte de fil rouge des deux éléments, l'intérêt pour Schiller d'une part et le type de mélodie de l'autre, qui va finalement se retrouver dans la 9e, alors que jusque-là c'était deux idées séparées, disons, parce que les thèmes auxquels les mélodies qui ressemblent à l'Ode à la joie sont associées n'ont a priori pas grand-chose à voir avec l'Ode à la joie.
Non, mais en fait, les deux courants sont parallèles. C'est-à-dire que Beethoven s'intéresse à Schiller assez tôt dans sa vie. Et puis alors ça pose la question évidemment de ses positions personnelles sur lesquelles vous revenez. Pour autant qu'on puisse retracer à travers la carrière de Beethoven ce qu'il pensait réellement. Puisque bon, il est quand même, il émane dans le mécénat de l'aristocratie viennoise. On ne sait pas très bien à qui était dédiée réellement la troisième symphonie, malgré tout ce qu'on raconte. Et on ne sait pas très bien quelles étaient ses pensées politiques. A-t-il été proche de la franc-maçonnerie? Il a quand même participé, on va le voir, à un certain nombre de festivités de l'Empire des Habsbourg, dont il a été finalement un fidèle sujet, bien que né à Bonn.
Alors, il n'a pas été franc-maçon lui-même, mais il a été effectivement très proche de cercle de la franc-maçonnerie. Il a été très proche du pouvoir dit joséphiniste, disons de l'Aufklärung, version allemande et autrichienne. Il a été proche des gens qui avaient de la sympathie pour la Révolution française. Il a été proche de gens qui avaient une haine féroce de la Révolution française. Il a été proche de gens qui étaient d'un nationalisme austro-allemand dans ses variantes tout à fait décidées et militantes. Il a été proche de gens qui prenaient l'universalisme le plus général. Bref, il a eu beaucoup, beaucoup de facettes. Il a eu un parcours idéologique assez sinueux. Et si je dis ça, c'est pas du tout pour dire qu'il n'était pas quelqu'un de bien. Ce que je veux dire, c'est qu'il est un personnage typique du désarroi dans lequel les élites allemandes se sont trouvées plongées pendant 40 ans. Enfin, désarroi jusqu'au moment où ça se concentre autour des positions plutôt nationalistes.
Il faut dire que la Révolution française élargit, je pense à l'ouvrage de Martin Kaltenecker sur le bruit lointain des batailles, qui est paru il y a quelques années chez Fayard. La Révolution française élargit considérablement l'horizon des Européens. Enfin, si on peut donner déjà ce titre-là aux habitants du continent européen, c'est-à-dire que brutalement, les frontières éclatent et une armée colossale se répand dans toute l'Europe avec des idéaux qui sont en fait des idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité qui ont l'air de transcender la question nationale. Or, finalement, cette question nationale, elle ressurgit face à la guerre. Et ce sont les armées russes populaires, presque, pourrait-on dire, qui vont mettre à mal ce rêve français d'une sorte d'État sans nation.
Oui, oui, c'est indéniable qu'il y a un avant et après la Révolution française et que l'après s'exprime notamment par ce genre de saut quantitatif que Martin Kaltenecker a effectivement exploré dans son bouquin. Cela dit, une fois qu'on a dit ça, on ne dit pas grand-chose sur les positionnements politiques. Et c'est ça l'ambiguïté de la chose. Et ce qui se passe autour des champs politiques dont on parle là et de la trajectoire de quelqu'un comme Beethoven, c'est que tout le monde prend acte, par exemple, du fait que la figure de la nation est là, la figure du peuple est là, qu'on ne peut plus faire semblant que tout ça n'existe pas. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'est pas plus avancé pour savoir de quel côté on est. Et Beethoven est le type de personnage qui va se retrouver tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, en mobilisant au service d'une cause comme de son contraire, les ressources esthétiques, musicales, qui sont, elles, nées de cette expérience de la Révolution. Donc, tout ça est assez nuancé. Je pense que c'est intéressant de remettre un peu la complexité du décor sur la table, dans la mesure où on a trop l'habitude, en France surtout, de penser Beethoven égale la Révolution française en musique. Point. Donc, les choses sont plus compliquées. C'est un peu la vocation d'éditorien de rappeler
oui,
ça.
Oui, de rappeler que c'est quelquefois moins blanc et noir que gris, voilà. Et ça commence en fait par une petite chanson d'amour.
Gerne geb und wieder nehme. Dann, o Himmel, außer sie, ich würde ganz mein Herz verloren, Leib und Leben könnt ich dich nicht vergebens hassen fordern. Gegen uns der Höhe Kunst, Liebe nähret gegen Liebe und entflammt so Feuersbrunst, was ein Aschenfüchen bliebe und entflammt so Feuersbrunst, was ein Aschenfüchen bliebe. Wüsst ich,
ein bisschen hiltest und von dem, was ich für dich nur ein Hundertteilchen fühltest, dass dein Dank hübsch meinem Gruß halben Wegs entgegenkäme und dein Mund in Wechselkurs gerne gäb und wieder nehme. Da nur Himmel außer sich, ich würde ganz mein Herz verloren, Leib und Leben könnt ich dich nicht vergebens lassen fordern. Gegen Gunst erhöht Gunst, Benehret gegen Liebe und entflammt zur Feuersbrunst, was ein Aschenfünkchen bliebe und entflammt zur Feuersbrunst, was ein Aschenfünkchen bliebe, was ein Aschenfünkchen bliebe, was ein Aschenfünkchen bliebe.
La deuxième partie d'un Lied de Ludwig von Beethoven sur des vers du poète Gottfried Bürger, un Lied de 1795. Alors nous avons entendu Amour réciproque, qui est précédé dans cette œuvre de Soupir d'un homme qui n'est pas aimé, puisqu'en fait cet amour réciproque n'est pas partagé. C'est Bannebourg et c'est ce dont se plaint l'amoureux avec, pour dernier vers, une faveur attire les faveurs, l'amour nourrit l'amour qu'il engendre, et ce qui n'était qu'étincelle devient un immense brasier. Alors l'immense brasier, on va y arriver, mais c'est assez amusant finalement pour l'histoire de l'ode à la joie et de la mélodie de la joie de Beethoven de commencer par un amour qui n'est pas partagé sur cette mélodie qui va être reprise après par Beethoven dans sa fantaisie et puis qu'on va retrouver évidemment dans l'ode à la joie. Donc on voit petit ruisseau engendre les grandes rivières.
Oui, tout en se transformant, autant à cause du thème, enfin l'amour réciproque, ou plutôt qui n'est pas réciproque.
Mais la petite étincelle va
mais,
s'allumer.
Oui, on peut toujours attendre l'incendie, mais enfin je ne sais pas s'il viendra. En même temps, la mélodie, bon, elle ressemble, elle est proche, mais ce n'est pas exactement la mélodie de l'Ode à la joie, on peut le préciser, parce que dans les esquisses de Beethoven, on a retrouvé des tas de versions préliminaires de la mélodie finale, et on voit que pour Beethoven, c'est vraiment d'un travail de production qu'il s'agit. Et je dis ça parce qu'il y a une sorte de mythe, hein, de plus, sur l'Ode à la joie comme une mélodie d'essence populaire, spontanée, née, disons, par une sorte d'étincelle, justement. Eh bien, ce n'est pas pour autant nécessaire de rappeler le talent n'est rien sans la transpiration, mais en tout cas, Beethoven, lui, il a transpiré pour l'écrire, cette fameuse mélodie spontanée. Donc,
oui, et puis comme on a ces esquisses, ces cahiers d'esquisses, on sait qu'il y a un travail thématique extraordinaire qui est fait sur les esquisses beethoveniennes. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de processus de simplification à partir de ça, dont parle d'ailleurs aussi Martin Kaltenecker, dont parlait André Boukourechlieff aussi dans son petit ouvrage sur Beethoven. C'est-à-dire que l'art beethovenien, c'est aussi de partir du complexe pour simplifier le discours et faire de ce discours un élément constitutif de l'œuvre, comme il le fera avec les premières mesures de la cinquième symphonie, ou comme il le fait avec le thème de l'Ode à la joie qui revient dans la neuvième, qui est aussi constitutif de sa construction.
Oui, et si je peux ajouter quelque chose là-dessus, ça c'est très important pour comprendre que la mélodie de l'Ode à la joie, on y viendra quand on écoutera des extraits, est une sorte de corps étrange, je ne dis pas un corps étranger, mais un corps étrange dans le type de mélodie que Beethoven utilise dans ses symphonies en général et dans la neuvième. Et ça, ça a des conséquences politiques, dans la mesure où la mélodie simple et populaire, etc., est exhibée comme quelque chose qui est un objet autonome, un objet qu'on peut découper, qu'on peut détacher, et c'est exactement ce qui va se passer à partir de 1824, c'est-à-dire que c'est une symphonie, donc une œuvre en soi, en quatre mouvements, qui appartient au répertoire, mais c'est aussi quelque chose qui porte en soi un objet qui peut migrer, qui peut se promener dans l'espace public, dans l'espace politique, ailleurs. Et disons, la réception de la neuvième, elle est toujours faite de cet écartèlement entre, c'est la neuvième symphonie, grande œuvre intégrale, intégrée, organique, disait-on à l'époque, et c'est une petite mélodie de rien du tout dont personne ne sait exactement ce qu'elle veut dire s'il n'y a pas un texte et qui en même temps peut être, affublée de toutes sortes de contenus politiques et discursifs en général.
Ce que vous montrez aussi, Stéphane Bourg, dans votre ouvrage, et vous l'avez d'ailleurs esquissé dans ce que vous disiez précédemment, c'est que la personnalité de Beethoven s'accommode de beaucoup de réactions face au pouvoir, et notamment, il va jouer un grand rôle, enfin sa musique va jouer un grand rôle à l'automne de 1814 avec le congrès de Vienne, et on voit certaines musiques beethoveniennes servir la contre-révolution, puisque le congrès de Vienne donc rassemble les forces européennes contre l'Empire français, et d'ailleurs les 100 jours ne vont même pas interrompre les discussions du congrès, et Beethoven va avoir commande d'une musique qui s'appelle l'Instant glorieux pour soliste, chœur et orchestre, et qui chante l'Europe debout, mais c'est l'Europe de Metternich.
Absolument, et on peut dire que c'est la seule fois dans la carrière de Beethoven où lui-même a associé son œuvre à une identité européenne. Donc cette Europe, elle existe bien dans son expérience, sauf que c'est de l'Europe contre-révolutionnaire qu'il s'agit.
Les trésors de France Musique.
Ludwig van Beethoven, le dernier chœur du glorieux moment, cantate pour quatre solistes chœurs et orchestres, plus 136, et Ce chœur qui était interprété là par l'Académie de Sainte-Cécile ainsi que l'orchestre de l'Académie nationale de Sainte-Cécile, direction Tchung, ce chœur, Esteban Bourg, en fait rappelle les dispositifs de la Marseillaise, c'est-à-dire qu'on voit entrer successivement un chœur de femmes, un chœur d'enfants et un chœur d'hommes. Et si on donnait tous les couplets de la Marseillaise, on aurait les entrées successives des femmes, des enfants et des hommes. Donc on voit Beethoven utiliser en 1814, alors que le premier chœur dit « L'Europe est debout, et les temps dans leur marche éternelle, le chœur des peuples, les siècles anciens élèvent stupéfaits leur regard », on le voit utiliser finalement le principe même pour une musique contre-révolutionnaire, entre guillemets, de la musique révolutionnaire. Française.
Oui, absolument. C'est exactement le genre de choses que David organisait pour les fêtes révolutionnaires.
Et comme là, quoi, quand on a des fêtes organisées,
on les avait en vrai. Enfin, un cœur d'enfant, un cœur de femme, un cœur d'homme, et tout ça ensemble fait la voix de la patrie, la voix de la nation, etc. Et c'est ce que Beethoven utilise contre le projet révolutionnaire, en effet.
Alors, la 9e symphonie va être créée en même temps que certains éléments de la Missa Solemnis. En fait, les deux œuvres sont conduites ensemble. Finalement, Beethoven va dédier cette 9e symphonie à Frédéric Guillaume III lors de sa parution en 1826. Il va faire un choix dans le texte de Schiller. Le vin et la souffrance vont être évacués. Et Barthes a parlé à propos de cette œuvre de chimère musicale. Et on voit que dans votre ouvrage, donc la 9e de Beethoven, une histoire politique, on voit, Esteban Bourg, que cette œuvre n'a cessé d'alimenter la discussion, finalement. Et elle continue aujourd'hui, puisque vous aviez une petite anecdote sur ce qu'on va entendre à présent. Ce qui fait que la 9e symphonie est toujours vivante. Vous parliez de réaction féministe par rapport au premier mouvement, à la réexposition du premier mouvement.
Oui, en effet, il y a une musicologue américaine, Susan McClary, qui est la figure historique de la musicologie féministe, qui avait...
Les gender studies.
Oui, tout à fait, qui avait écrit que le début de la réexposition du premier mouvement de la 9e symphonie est l'un des moments les plus affreux, horribles, je crois que c'est la traduction la plus fidèle de l'histoire de la musique, et que ce moment ressemble, selon elle, à l'impuissance d'un violeur qui n'arrive pas à atteindre la jouissance, enfin quelque chose de cet ordre-là.
Il me semble qu'on a dit ça aussi du deuxième acte de Tristan et Isolde de Wagner.
Oui, mais c'est pas exactement de viol qu'il s'agit dans
oui,
Tristan.
Oui, là il s'agit pas de viol.
Alors je vous dis tout de suite, dans la 9e, je pense qu'à mon avis, la figure du violeur, elle est tout aussi pertinente ou peu pertinente que n'importe quoi d'autre. Enfin, mais c'est un fait, ça a provoqué une discussion intéressante, et je suis un peu embarrassé et à la fois tenté de raconter cette anecdote, parce que d'une part, c'est le genre d'argument qui dit mais les musicologues féministes et les féministes en général peuvent dire n'importe quoi. McClary a retranché cette phrase-là par la suite dans une version ultérieure de son texte, mais elle a mis le doigt sur quelque chose qui était le lien entre le canon, comme on l'appelle, de la musique classique et la figure patriarcale de Beethoven et le style héroïque comme un style à vocation hégémonique et la question du rôle des femmes, etc. Et ça a produit effectivement beaucoup de débats dans les années 90. Donc c'est l'un des indices qui montre qu'on n'a pas fini de discuter de ce que veut dire cette œuvre et ce qu'on peut en faire.
Ben voici l'objet du délire. un extrait donc du premier mouvement de la 9e symphonie de Ludwig van Beethoven à partir de la réexposition avec l'Orchestre philharmonique de Berlin, la direction de Claudio Abbado, pour cette émission consacrée donc en votre compagnie, Esteban Bourg, à la 9e de Beethoven, une histoire politique. Alors, qui dit histoire politique dit aussi que la 9e, et c'est ce que vous montrez, est devenue très vite une utopie politique en musique et que selon les camps auxquels on appartient, on lui fait dire ce qu'on veut.
Alors, c'est devenu très vite une utopie politique, mais en fait, j'essaye de dire autre chose aussi, c'est qu'elle est déjà, en quelque sorte, pour Beethoven et dans le tissu de son écriture, une utopie politique en soi. Je veux dire par là que le dernier mouvement en particulier, mais ça pourrait s'appliquer à l'ensemble de la symphonie, est tissé avec des genres musicaux qui ont des significations politiques. Et l'expression du choc de genre que je dois au musicologue Leo Treitler, je pense que décrit très bien ce qui se passe dans le final, où, on sait qu'il y a des moments qui évoquent la musique militaire, il y a d'autres moments qui évoquent
turque
la musique...
La musique turque
en particulier.
Oui.
D'ailleurs, par rapport à la musique turque, il y a une interprétation intéressante du philosophe Žižek qui dit il y a comme une sorte d'impensé de l'Europe qui passe par la présence de cette musique turque bizarre parodiée dans le cœur du final. Mais il y a aussi des fossiles grégoriens, comme un autre musicologue les a appelés. Il y a le grand langage héroïque de Beethoven. Et il y a, en gros, cette volonté de faire de la musique une sorte de lieu de projection d'un imaginaire politique. Et donc, mon impression, c'est que les interprétations ultérieures, qui effectivement partent dans tous les sens, sont justifiés, entre guillemets, par ce potentiel qui est déjà écrit dans l'œuvre. C'est pas quelque chose de vide que l'on fait parler comme on veut. L'explication du destin de la 9e, de ce destin politique controversé et complexe, est déjà, je crois, dans le projet de Beethoven et dans ce qu'est la musique elle-même.
Thomas Mann parlait, et vous le citez, de l'idéal de l'universalité de l'homme privé. Est-ce qu'il y aurait aussi une articulation du singulier et du collectif, qui est aussi la grande question des hommes, c'est-à-dire comment est-ce qu'un individu s'articule au collectif, surtout un artiste, comment est-ce que l'individualité d'un artiste s'articule aux aspirations collectives d'une classe, d'une société, d'un moment historique ?
Oui, là, je pense que la subjectivité beethovenienne, elle est indiscutable, elle est là, et c'est l'originalité de l'œuvre. C'est cet homme, cet artiste qui se dit « j'ai tout fait dans ma vie », disons, on est à la fin de son parcours, pratiquement. « J'ai servi les puissants, j'ai travaillé avec eux, j'ai travaillé même contre eux. Bon, maintenant, je rêve, disons. » Et d'ailleurs, il y a une phrase de Fétis qui disait « À la fin de sa vie, pour Beethoven, composer n'était plus que rêver. » Parce que, bien sûr, il était sourd et misanthrope et un peu fou, il faut dire les choses. Et ce rêve, donc, c'est son rêve à lui. Et de ce point de vue, c'est bien une émanation de sa subjectivité. Sauf que ce rêve, on rêve tous avec ce qui appartient à tout le monde. Et donc, ce rêve, il est fait de débris, de morceaux, de fragments d'un imaginaire qui, lui, est produit par d'autres, et c'est ce qui fait que ça parle aux autres aussi.
Et c'est ce qu'on entend donc dans l'extrait qu'on va écouter à présent, qui est un extrait du final où on se retrouve en face d'une forme religieuse, enfin d'une forme d'église qui est une fugue.
Alors, le fragment que nous avons choisi, c'est, les auditeurs pourront se situer, c'est plutôt vers la fin du dernier mouvement, enfin avant le final proprement dit, la coda, mais plutôt vers la fin, après la grande présentation instrumentale, après les variations successives de la partie chantée de l'Ode à la joie, après l'hymne du ténor qui marche vers la victoire, après des tas de choses, et après surtout cette mélodie Zeidum Schlungen, qui est le fossile grégorien dont je parlais, qui est une mélodie d'inspiration nette religieuse. Une fois qu'on a dit tout ça, donc Beethoven rassemble les deux mélodies principales de son final, l'Ode à la joie et le Zeidum Schlungen, et il en fait donc cette double fugue qui est un passage qui évoque à la fois un univers de croyance, un univers religieux, il est question du Père aimant, et la fraternité des hommes autour de la joie.
C'était le premier volet de Note contre note, une émission de Martin Kaufmann qui recevait sur notre antenne Esteban Bourg pour nous parler de son livre paru en 1999, La neuvième de Beethoven, une histoire politique. À suivre demain le second volet de cette archive de 2009. Tous nos trésors sont disponibles en podcast via l'application Radio France et sur le site radiofrance.fr. Merci à Béatrice Trichet, qui était à la réalisation, ainsi qu'aux documentalistes de l'INA pour leur collaboration.
À réécouter sur francemusique.fr.